de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Je sais pas pourquoi il repart, mais bonsoir, vous écoutez le Canu Info du lundi 5 février et on commence tout de suite avec les titres.
À l'international, on vous parlera de la répression de la mobilisation en Argentine et puis on ira en Finlande, toujours pour parler de grève, et ensuite on vous parlera de la situation au Sénégal.
Au national, on parlera encore de grève, mais cette fois dans l'éducation.
Et on aura un dossier avec un reportage sur les bâches de la Confédération Paysanne, la lecture d'un communiqué et un petit sujet sur les apiculteurs en colère qui rejoignent le mouvement.
Et là, on fait tout de suite les brèves.
Et oui, avec la démission du recteur de Paris, c'est encore la fameuse AOC qui a fait des siennes. Alors non, hein, pas appellation d'origine contrôlée, mais bien notre chère et désormais véritable machine à bad buzz, Amélie Oudéa-Castéra. Alors cette semaine, au bas de menu de la ministre de l'Éducation, la démission donc du recteur de Paris, Christophe Querrero. Il a annoncé vendredi 2 février qu'il quittait ses fonctions en raison de ses désaccords avec le ministère qui, selon lui, maintient l'école de la reproduction sociale. C'est pas nous qui allons dire le contraire. En effet, mercredi, le ministère de l'Éducation nationale avait suspendu l'un de ses projets qui prévoyait la fermeture de plusieurs classes préparatoires à la rentrée prochaine et l'ouverture à la place de 3 autres classes ouvertes aux bacheliers professionnels. Allez donc à la semaine prochaine pour un prochain bad buzz d'AOC.
Et aujourd'hui, la 11e chambre correctionnelle de Paris a statué sur les accusations d'emploi fictif au MoDem. Et elle a jugé que le MoDem avait en effet utilisé illégalement des fonds européens pour rémunérer des permanents en les faisant passer pour des assistants parlementaires. Et ce, en toute connaissance des députés européens du MoDem ainsi que des trésoriers du parti. Bref, de tout le monde au MoDem. Enfin non, pas tous, puisque apparemment François Bayrou n'est pas condamné. Le président du tribunal lui-même reconnaît qu'il n'est pas crédible, qu'il ignorait ce qu'il se passait au sein de son parti, mais il manquerait de preuves. Quant aux employeurs fictifs et aux responsables administratifs du parti, les condamnations vont de 10 à 18 mois de sursis, de 10 à 50 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis aussi.
À Lufthansa, une grève d'avertissement est prévue de mercredi 4h du matin jusqu'à jeudi 7h du matin par le personnel au sol dans le cadre d'un conflit sur les salaires. L'objectif est d'augmenter la pression sur la direction et d'obtenir une augmentation du salaire mensuel de 500 euros ainsi qu'une prime de compensation de l'inflation de 3000 euros. La grève touchera les aéroports de Francfort, Munich, Hambourg, Berlin et Düsseldorf et entraînera d'importantes annulations et retards de vols. Lufthansa travaille sur un plan de vol spécial pour plus de 100 000 passagers qui seraient touchés par la grève. Cette grève est prévue donc comme avertissement avant l'ouverture officielle des négociations entre les syndicats et le patronat, puisque les propositions annoncées par les patrons sont jugées totalement insuffisantes du fait de l'inflation qui touche les salariés pendant que le groupe affiche des bénéfices records. Les négociations officielles reprendront ensuite le 12 février.
Des vidéos révélées par Mediapart montrent qu'une femme de 67 ans, juive orthodoxe, a été privée de sa perruque et violentée par les policiers alors qu'elle venait d'être arrêtée au commissariat de Créteil. Un collectif de lutte contre l'antisémitisme rappelle que arracher la perruque d'une femme juive est un acte antisémite, une atteinte à sa dignité, à sa pudeur, de la même manière qu'arracher le foulard d'une femme musulmane serait un acte islamophobe. La victime, Sarah, estime que l'action de la police est un acte antisémite par des représentants de l'État et, pour reprendre ses mots, qu'elle est visée parce qu'elle est juive et parce qu'elle est une femme aussi. Entravée, malmenée et humiliée sur le sol d'un commissariat, elle explique même avoir pensé aux nazis. Pas étonnant lorsqu'on sait que la police nationale a été fondée sous le régime de Vichy.
Mardi dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a condamné Amazon à une amende de 32 millions d'euros pour avoir utilisé un système de surveillance qui contrôlait étroitement les mouvements de ses travailleurs afin d'évaluer leur performance, bien sûr. Les scanners utilisés par Amazon, donc qui appartient, je le rappelle, à Jeff Bezos, troisième fortune mondiale, alertaient l'entreprise en cas d'inactivité de plus de 10 minutes, en cas de numérisation trop rapide ou trop lente d'un colis, et contrôlaient le traitement à la seconde près d'un colis ou d'un paquet, ainsi que le temps mis par les employés pour entrer dans l'entrepôt et commencer à travailler. Les employés n'étaient pas clairement et pleinement informés de la surveillance et les données étaient conservées pendant 31 jours. C'est pas la première fois que l'entreprise de Bezos est visée pour ce genre de pratique. De nombreuses plaintes ont été déposées au sujet du rythme de travail imposé par l'entreprise, avec des employés qui, par exemple, étaient contraints d'uriner dans des bouteilles en plastique pour ne pas ralentir la chaîne de livraison. En France, un rapport publié en novembre dernier pointe des conditions de travail délétères dans les entrepôts, avec un doublement du nombre d'accidents du travail. Entre 2021 et 2022, 1132 accidents contre 482 l'année précédente.
On enchaîne. International. Avec l'international donc.
Oui, on vous a parlé la semaine dernière, on va commencer par l'Argentine du coup, à l'international. On vous avait parlé la semaine dernière des grèves et depuis la crise s'enlise. Alors pour rappel, l'objet de la contestation, c'est la loi Omnibus qui contient en elle à peu près tout le programme d'austérité et de régulation envisagé par Milei, le président. Privatisation, plein pouvoir à l'exécutif, remise en cause du prix unique du livre, fiscalité, etc., etc. Pour paraphraser Myriam Bregman, donc qui est une députée argentine d'extrême gauche, cette loi réunit toutes les revendications des classes dominantes depuis 55. C'est un cadeau d'une ampleur rarement écalée pour les capitalistes, mais aussi une belle avancée vers un régime dictatorial. Alors, si Milei a reculé notamment devant le lobby de l'agro-business, encore lui, sur la hausse de la fiscalité, il ne semble pas encore prêt à céder à la rue. Depuis le début des débats mardi dernier, la répression de la mobilisation a été forte. Milei a envoyé son bras armé réprimer syndicalistes, manifestants et militants associatifs, tous mobilisés contre ce projet de loi austéritaire. Le droit de manifester a pour ainsi dire quasiment disparu, puisqu'un protocole de sécurité interdit de se rassembler sur la chaussée. Du coup, la police s'en donne à cœur joie, un coup de LBD, de lacrymo et de canon à eau. On a pu voir pêle-mêle des voltigeurs tirer des beanbags depuis leur moto, des retraités se faire tabasser, des journalistes blessés et interpellés. Jeudi soir, alors que le texte était en discussion au Congrès, les députés d'opposition ont même quitté la salle pour marquer leur désapprobation face à cette répression sanglante. La répression a pourtant continué le lendemain, vendredi, donc toujours devant le Congrès, qui en même temps donnait son accord sur le principe général de la loi. Le vote article par article débutera demain. On espère que la mobilisation ne faiblira pas. Et on dit tous en cœur avec les Argentins, la Argentina no se vende.
Et après l'Argentine, la Finlande, où déjà en décembre, une grève de 24 heures avait été très suivie pour protester contre un projet de réforme du gouvernement Orpo-Pura, soit la coalition du PCN, parti conservateur, et du parti finnois, parti xénophobe d'extrême droite. Le projet n'ayant pas été abandonné et le gouvernement n'ayant pas ouvert la voie à des négociations collectives jugées acceptables, le pays vit depuis jeudi un mouvement de grève massif qui fait littéralement tourner l'économie au ralenti. Le mouvement est appelé par les trois principaux syndicats des secteurs publics et social, de l'industrie et des services. Au total, 550 vols annulés rien que pour les journées de jeudi et vendredi. Des horaires d'ouverture restreints pour les supermarchés faute d'employés. Aucun train ne circule vendredi à Helsinki, aucun métro, aucun bus. Personnel réduit de moitié dans les crèches et 1/10 des enfants seulement amenés à la crèche. La grève est très bien acceptée parmi la population et les personnes interrogées dans la presse parlent d'une réforme injuste, non nécessaire et purement idéologique. Et en effet, la réforme consiste à réduire le pouvoir des syndicats dans les négociations collectives, restreindre le droit de grève, réduire les allocations chômage et introduire un jour de carence en cas d'arrêt maladie. Fait rare, bien que la réforme toucherait en majorité les plus modestes salaires et les personnes au chômage, les cadres sont fortement représentés dans le mouvement. Et le mouvement semble bien parti pour durer puisque des actions syndicales sont prévues pour demain et que dans l'industrie, des actions de débrayage coordonnées sont prévues pour le 14 et le 16 février.
Et on finit notre tour du monde en partant en Afrique.
Oui, au Sénégal, on assiste à ce que certains Sénégalais appellent un coup d'État constitutionnel. Donc le président actuel Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, a annoncé ce samedi qu'il reportait à une date indéterminée l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février. Donc il a annoncé ça quelques heures à peine avant l'ouverture de la campagne électorale. Il a abrogé le décret portant convocation du corps électoral sous prétexte d'attendre une enquête qui doit être menée par une commission parlementaire sur deux juges du Conseil constitutionnel qui ont participé au processus de validation des candidats à cette élection présidentielle. Donc, en gros, le Conseil constitutionnel avait validé une liste de 20 candidats et exclu une autre dizaine de candidats, dont deux figures de l'opposition. Et c'est un de ces candidats de l'opposition, un candidat du Parti démocrate sénégalais, Karim Wad, qui a remis en cause l'intégrité de deux juges constitutionnels et réclamé le report de l'élection présidentielle en soumettant à l'Assemblée nationale une demande de commission d'enquête sur le processus de validation des candidats. Le camp présidentiel a sauté sur cette occasion et a soutenu sur cette occasion, donc, qui pour certains est d'ailleurs complètement créée en complicité avec le camp présidentiel, et a soutenu cette initiative à l'Assemblée nationale pour retarder au maximum les élections. Parce qu'en fait, le candidat du camp présidentiel, Amadou Ba, est en très mauvaise position. Il est décrié, y compris au sein de son propre camp. Alors que le candidat de l'opposition qui se décrit comme anti-système, donc Bassirou Diomaye Faye, a été autorisé à se présenter aux élections par le Conseil constitutionnel et s'est imposé ces dernières semaines comme un vainqueur possible. Donc c'est un candidat qui est pour l'instant emprisonné depuis 2023 et sur qui c'est donc qui a été proposé par le camp d'un autre opposant connu au Sénégal. Dont la candidature a été refusée, elle, par le Conseil constitutionnel, après qu'il ait été condamné, pareil, dans des condamnations qui ont été décrites comme une manipulation du pouvoir en place au Sénégal, et ce qui avait donné lieu à pas mal de manifestations et émeutes déjà en 2021 et en 2023. Donc, le président Macky Sall, donc le président en place, a annoncé qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il ne se représenterait pas et qu'il engagerait un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Mais on s'inquiète, enfin beaucoup de monde s'inquiète un petit peu quand même, puisque suite à son annonce, il y a eu donc des manifestations à Dakar le lendemain, le dimanche, avec un appel de l'opposition à maintenir la campagne électorale. Il y a les manifestants qui ont été réprimés, donc gazés et poursuivis par la police. Il y a les autorités qui ont suspendu le signal de la télévision privée Wolf TV, coupable pour eux d'incitation à la violence à la suite de diffusion des images des manifestations. Et puis, aujourd'hui lundi, il y a le ministre de la Communication qui a même coupé les données mobiles d'Internet, 3G et 4G, pour éviter le partage sur les réseaux sociaux des images de manifestations. Et des appels à continuer la mobilisation sous le mot d'ordre Free Sénégal. Donc c'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle est reportée. Le pays n'a jamais connu de coup d'État alors qu'ils se sont succédés en Afrique de l'Ouest. Le risque, selon un des risques, selon plusieurs politistes, c'est aussi que ce genre d'annonce amène à ce que l'armée dépasse elle aussi la constitution et ouais, ça pourrait amener à un coup d'État militaire. Affaire à suivre donc pour le Sénégal. En tout cas, pour l'instant, les manifestations à Dakar continuent.
Et on vous propose d'écouter un son de rappeuse sénégalaise. Le titre, c'est Dakam Rap et c'est par le groupe Alif. Entendre Attaque libératoire de l'infanterie féministe. On les écoute tout de suite.
Vous êtes toujours sous Radio Canu, vous écoutez le Canu Info du lundi et on enchaîne tout de suite.
National.
Et au national, on parle de la grève de l'éducation.
Oui, les enseignants des collèges et des lycées étaient en grève ce jeudi. L'appel à la grève avait été lancé initialement en décembre par 4 syndicats sur les problèmes de salaire et de conditions de travail. À l'époque, Gabriel Attal, siégeait comme ministre de l'Éducation, mais ce dernier, ayant retourné son abaya et enfilé son costume de Premier ministre, c'est désormais la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra, on vous en parlait tout
encore
à l'heure.
Encore elle !
qui fait
toujours dans les bons coups.
Qui fait, elle fait donc office de porte-voix du régime sur l'éducation. Et sûrement bien malgré elle, elle a contribué à stimuler le mouvement des travailleuses et des travailleurs. Même les syndicats le reconnaissent, les discours de la ministre ont attisé la colère, notamment sur la scolarisation de ses enfants dans un établissement bourgeois et privé, au point que le mouvement de contestation s'amplifie. Selon le principal syndicat de l'éducation, plus d'un professeur sur deux était en grève au collège, qui est le niveau concerné par la mise en place des groupes de niveau dès la rentrée prochaine, et c'est une mesure très contestée qui risque d'amplifier encore plus la reproduction sociale à l'école. Les syndicats se battent aussi contre la transformation du brevet en examen, sanctionnant le passage en seconde. Ils se battent contre la refonte des programmes et la labellisation des manuels dans le premier degré. Selon leurs mots, les enseignants veulent lancer un avertissement au gouvernement qui reste sourd. Le gouvernement met en effet en place des politiques néoconservatrices, l'annonce du retour de l'uniforme à l'école étant la dernière lubie en date. Et donc il met en place ces politiques pour contourner les questions importantes, en particulier l'amélioration des salaires des enseignants et des enseignantes et celle des l'amélioration des conditions de travail pour émanciper les enfants avec comme objectif de ne pas les éduquer à être de bons petits dociles ouvriers. L'avenir dira donc si la ministre, aujourd'hui totalement discréditée, pliera aux attentes des enseignants et des enseignantes. Pour l'instant, on espère surtout que la ministre sera envoyée au coin.
On continue tout de suite avec notre dossier du jour.
Oui, donc on passe à notre dossier autour de la mobilisation des agriculteurs et agricultrices. Alors, on va rien vous apprendre. Hein. Depuis plus de deux semaines, un important mouvement a donc paralysé la France. Mais après d'intenses tractations avec les représentants de l'agro-business que sont les dirigeants de la FNSEA, tout ce petit monde est rentré au bercail. Tout ce petit monde, sauf d'irréductibles révolutionnaires, décidés à en finir avec ce monde de merde et ce modèle agricole qui n'a plus aucun avenir. Bref, on va écouter un reportage et on reviendra après ça sur les annonces du gouvernement et la suite du mouvement, puisque les sons que vous allez écouter ont été enregistrés lundi et mardi dernier, donc deux jours avant la défection de la FNSEA, la coordination rurale et les jeunes agriculteurs. Ça se passe sur le péage de Saint-Quentin-Falavier, qui est tenu par la Confédération paysanne, qu'on avait d'ailleurs reçu la semaine dernière, hein, si vous voulez écouter. Mais avant ça, donc, immersion sur le blocage.
Ouais, ben, bonjour à tous, donc Nicolas Fortin, moi, je suis secrétaire national et je suis paysan dans la Vienne. Avant de vous parler de ce que j'ai un peu de mal à être ici le porte-parole d'Atal. C'est un peu bizarre. Avant ça, je vais peut-être vous parler de ce qu'à la conf on a choisi de porter dans ces batailles. On se dit que franchement c'est sans l'acte du revenu paysan que nous conf, il faut qu'on assiste. Voilà, il y a un mal-être paysan global, mais c'est vrai que l'histoire du revenu, elle est quand même pour nous essentielle. Donc bien sûr, les accords de libre-échange, ça nous semble indispensable d'accentuer là-dessus. Et puis bien sûr, les prix, pour que les paysans aient des revenus, il faut aussi qu'ils aient des prix. Donc il y a Egalim, comme le gouvernement en parle à chaque fois, en fait, c'est pas la solution, puisqu'on renvoie les paysans à des négociations avec en face des monstres qui sont l'industrie agroalimentaire, il ne faut pas les oublier. Hein. On est beaucoup mobilisé la conf actuellement sur la grande distribution, mais il y a aussi bien l'industrie agroalimentaire, notamment des grandes firmes qui achètent aux producteurs et qui sont aussi responsables du prix. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une réelle égalime, parce que c'est toujours ce qu'on a demandé depuis le début, la FNSEA l'a refusé, c'est qu'il y ait des prix planchers qui soient en fonction de notre coût de production et de notre rémunération. Donc ça, on est capable de le faire, l'Espagne l'a fait. Voilà, donc c'est important de continuer à insister et à pousser là-dessus. Donc cet après-midi, Attal a fait son discours de politique générale. Donc il a parlé un peu d'agriculture, mais pas que ça. Bien sûr, il y a l'agriculture est toute petite partie. Donc on suppose qu'il y aura d'autres annonces. C'est ce qu'il a dit, qu'il y aurait d'autres annonces plus tard. Voilà. Donc là, ce qu'il a dans son discours, il a dit bien sûr qu'il fallait continuer à réarmer l'agriculture. Alors, réarmer, toujours dans les mots guerriers. Hein, c'est leur langage actuellement. Donc protéger la souveraineté alimentaire. Donc il a parlé d'alternatives aux phyto, qu'il fallait remettre 250 millions là-dessus. Donc par rapport aux accords de libre-échange, il n'a pas dit, parce qu'on avait cru comprendre ce matin qu'ils disaient qu'ils allaient arrêter de négocier. le Mercosur notamment, mais là il a parlé des clauses miroirs, donc ça veut dire qu'il faut appliquer les clauses miroirs. Donc bien sûr ils restent toujours dans leur même logique, hein. On fait des accords de libre-échange et il suffit d'appliquer des clauses miroirs, et puis voilà, on va les appliquer. Mais enfin, il y a la question du social aussi qui est derrière les clauses miroirs, hein, comment on les applique et comment on va les contrôler. D'ailleurs on parle de normes, comment on va contrôler ce qui se passe dans tous les pays. Donc les clauses miroirs, ça veut dire que, en gros, par exemple, on va refuser d'importer d'un pays des choses parce que ça va déforester, parce qu'on va refuser d'importer de la viande bovine parce qu'il y a des hormones dans un pays, par exemple. Ça c'est les clauses miroirs. On applique, on veut, en théorie, c'est d'appliquer les mêmes modes de production dans ce qu'on importe, ce qu'on fait chez nous. Mais tout ça, c'est un peu de l'habillage, tout ça. Donc il a aussi dit qu'il fallait continuer à mettre de l'argent sur l'assurance récolte, c'était la solution pour les paysans pour les protéger du changement climatique. Donc il a quand même dit qu'il fallait changer de logique. Bon, c'est pas de quelle logique il veut changer. Donc Egalim, pour lui, c'est toujours la solution. La solution pour lui, c'est de remettre 100 inspecteurs de plus de la DGCRF pour contrôler. Donc deux fois plus de contrôleurs pour contrôler Egalim. Donc Egalim, ça fait longtemps que c'est sur la table et on a bien vu qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire appliquer. Donc on voit pas, si on reste dans la même logique, comment ils continueront à le faire appliquer. Donc il a parlé bien sûr des aides d'urgence, hein, qui étaient déjà annoncées par rapport à la MHE, par rapport aux aides sur le GNR, que les aides de la PAC seraient versées au 15 mars. Il a parlé en élevage du dispositif fiscaux, alors ça, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, d'aides d'urgence pour la viticulture, et que bien sûr l'agriculture française devait rester dans l'Europe et qu'on devait aussi continuer à négocier des choses, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Europe. Donc des nouveautés sur Egalim, voilà ce qu'il a annoncé au niveau de l'Europe, on espère que ça aboutira. Et bien sûr, par rapport à la jachère, qu'ils sont en train de négocier pour pouvoir bien sûr continuer cette dérogation sur la jachère qui existe depuis la guerre en Ukraine. Voilà pour les annonces, donc pas grand chose de nouveau en fait, hein, on reste toujours dans les mêmes annonces. Je pense que c'est important de rester mobilisé. Je pense que comme vous pouvez le faire ici, c'est bien que la CONF reste mobilisée pour qu'on puisse continuer à porter ce que l'on porte par rapport aux venus. Et on peut pas. On a en face des gens qui portent des choses qui sont tout souvent des broutilles. Donc notamment tout ce qui est mesures environnementales. Ça aussi semble important à la CONF. On a essayé un document où on demande aux autres organisations syndicales paysannes de se positionner par rapport au libre-échange et par rapport au prix plancher. Voilà, donc l'idée, c'est bien sûr de montrer que notamment la FNSEA a des doubles discours où ils disent aux paysans des choses, mais en fait, bien souvent, c'est eux avec le gouvernement qui ont refusé déjà de mettre les prix planchers la dernière fois dans Egalim, et puis ils sont favorables aux accords de libre-échange, voilà, au moins ceux qui sont à la tête de la FNSEA. Et voilà, je pense qu'il faut continuer à appuyer là-dessus, parce qu'on sait aussi qu'à l'intérieur de la FNSEA, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce discours-là. Moi, qui suis éleveur bovin, je sais bien que les gens de la FNB, les producteurs de bovins à la FNSEA, sont opposés aux accords de libre-échange. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on appuie et pour montrer un peu leur contradiction. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Donc moi, c'est Julie, je suis productrice de petits fruits rouges dans le département du Rhône, en agriculture bio, et je suis syndiquée à la Confédération Paysanne.
Ok, alors tu peux nous dire là où on est exactement ?
Alors ici, on est devant des entrepôts logistiques d'Intermarché.
Ok, alors quel est le sens de cette action ?
Eh bien, donc nous, on est venus là pour montrer notre colère face à tous ces produits qui sont achetés à certains producteurs à bas prix et revendus avec des marges exponentielles et du coup qui font pas vivre l'agriculture aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pour montrer que nous, on veut vivre de notre métier, on veut avoir des produits qui soient vendus à leur juste prix, avec des coûts de production réels Et voilà, la passe logistique aussi, c'est le symbole du transport, des produits qui viennent de loin. Ben voilà, moi, je suis productrice de fraises bio, pleine terre, françaises. Et voilà, je suis en concurrence en permanence avec des fraises hors sol qui viennent d'autres pays à toute saison, quoi.
Ok. Alors, il y a beaucoup de drapeaux de la Confédération paysanne aujourd'hui. C'est une action qui a été appelée uniquement par la Conf paysanne aujourd'hui. Tu peux nous dire pourquoi ?
Et ben, aujourd'hui, il y a des actions un peu de partout, par tous les syndicats. Et nous, ben voilà, on veut aussi faire partie du jeu et faire entendre notre voix dans cette colère, parce que voilà. Et du coup, on a fait un appel. Là, aujourd'hui, c'est une organisation de la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes.
Xavier Fromont, je suis éleveur de vaches allaitantes, Limousine, dans l'Ain, voilà, en Bresse, à 15 km au nord-ouest de Bourg-en-Bresse. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire rapidement une journée type pour toi, qu'est-ce que c'est en gros ?
Eh ben, c'est d'abord un travail sur l'élevage. On donne à manger aux vaches quand c'est l'hiver. Voilà, donc on donne du foin principalement, un petit peu de farine de céréales pour les animaux, pour les jeunes animaux en fait. Voilà. Et puis, eh ben, après, moi je fais de la vente directe. Donc il y a beaucoup de temps qui est consacré à la transformation, par exemple, de la viande et à la vente directe. Je suis adhérent d'un point de vente collectif, donc je vais faire des permanences et de la vente directe aux consommateurs dans ce point de vente collectif. Et puis, eh ben, évidemment, il y a les travaux des champs. Parce que donc je mets en valeur autour de 65 hectares, une quarantaine d'hectares d'herbes, 25 hectares de céréales diversifiées. Les 40 hectares d'herbes, on pratique un pâturage tournant sur ces 40 hectares d'herbes. Donc tous les jours, on a des changements de parcelles de vaches à faire. On a plusieurs lots à changer de place. Et puis, sur les cultures, sur les 25 hectares de culture, il y a une dizaine d'hectares de blé, quelques hectares de maïs, quelques hectares de soja, quelques hectares de haricots, quelques hectares de colza. Enfin voilà, on essaye de diversifier les cultures. Voilà, et donc ça nous occupe bien. Et ça, on va dire que le travail des céréales, c'est à partir du 15 avril, pour moi, à partir du 15 avril jusqu'à la récolte autour du 15 octobre.
T'es à la Confédération Paysanne depuis combien de temps ?
Je suis à la Confédération Paysanne depuis une dizaine d'années, on va dire, voilà. Et je suis co-porte-parole de la Confédération Paysanne Auvergne-Rhône-Alpes depuis, 3-4 ans, quelque
chose comme ça. Ok, bon, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu là où on est et surtout pourquoi est-ce qu'on est là ?
Alors, on est au péage de Saint-Quentin-Falavier, qui est un très gros péage de l'Est lyonnais. C'est un péage où il passe à peu près, ce qu'on nous a dit, ce que les forces de l'ordre nous ont dit, 100 000 voitures jour, donc voilà. Et surtout, c'est un péage qui est juste à côté d'une zone logistique, d'une très grosse zone logistique, qui est je crois que la première ou la deuxième zone logistique en Europe, avec pas mal d'entrepôts de toutes les catégories, en fait, aussi bien pour de l'alimentaire que pour d'autres choses. Donc ça nous semblait vraiment hyper symbolique de se poser là pour faire entendre le discours de la Confédération paysanne et notamment tout le discours qu'on a développé depuis de très nombreuses années, finalement depuis la création de la Confédération paysanne, sur notre opposition au libre-échange qui met à mal notre agriculture. Et on en a la preuve finalement tous les jours, d'année en année, hein, puisqu'on a une diminution très importante du nombre d'agriculteurs et on a une diminution aussi de notre souveraineté alimentaire, ce qui n'est pas le moindre des problèmes, hein, puisqu'aujourd'hui, à alors que il y a, mettons, 10 ans ou 15 ans, on était totalement autosuffisant en fruits et légumes, par exemple. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'autosuffisant à 50%. Donc, c'est quand même très gênant. Et on a confié à d'autres le soin de produire ces légumes et ces fruits, notamment à des pays européens. Hein, voilà, parce que la concurrence déloyale ou ces problèmes de concurrence de libre-échange, ils sont aussi à l'intérieur de l'Europe. Ils sont pas forcément avec les pays extérieurs, même si on a des exemples aussi. Hein, le soja brésilien ou les haricots kényans, eh ben, ça pose des problèmes. Les haricots kényans surtout, ça pose des problèmes aux maraîchers locaux. Hein, voilà. Donc il y a ce libre-échange finalement met à mal les agricultures vivrières, les agricultures tournées vers la souveraineté alimentaire. Pour sélectionner, on pourrait dire, presque une agriculture d'exportation qui est très peu efficace au niveau énergétique, qui encourage par exemple une uniformisation des régimes alimentaires un peu partout dans le monde. Donc voilà, on dit que c'est pas la bonne voie et que pour ça, très clairement, on nous dit que c'est la faute du capitalisme et du libre-échange et qu'il faut qu'on revenir à des choses un peu plus raisonnables. Voilà.
Alors justement, là on a entendu quelques annonces du gouvernement, notamment de Gabriel Attal, le Premier ministre. Est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens ou plutôt dans le sens inverse de ce que porte la Confédération paysanne pour l'instant?
En fait, c'est assez catastrophique. Moi, je juge la période assez catastrophique. C'est-à-dire que il faudrait pour l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens, des consommateurs, qu'on avance sur les questions environnementales et de santé publique, etc. Et du coup, certains syndicats, certains mouvements ont pris le prétexte de ce malaise paysan pour faire valoir des revendications qui vont vraiment à l'inverse, en fait, finalement. Parce que, par exemple, l'annonce de Gabriel Attal de suspension ou de moratoire sur les jachères obligatoires européennes, c'est vraiment quelque chose qui touche, allez, je vais dire 1% des agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment cosmétique et ça va pas dans le bon sens, très clairement, hein, parce que voilà, il y avait des volontés, une volonté justement de remettre l'accent sur la biodiversité, les haies, les arbres, voilà. Et en fait, ce sont les céréaliers qui ont obtenu de pouvoir mettre des jachères à la place de ces haies, de ces zones de biodiversité. Et maintenant, ils vont nous dire 4%, c'est impossible. Bon, voilà. Donc là, il y a vraiment un malaise là-dessus. C'est vraiment, en tout cas, c'est cosmétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour les zones dans le nord, notamment les plaines céréalières, pour tout dire. Mais en même temps, est-ce que c'est gênant qu'eux, ils puissent remettre des zones d'intérêt faunistique et biologique? Voilà, je pense pas. Ouais, honnêtement, je pense pas. Et je pense pas. Nous, on a un peu des slogans, on est un peu têtu. On dit que l'agriculture sans glyphosate, ça existait. On a utilisé glyphosate pendant un moment, mais on ne l'utilisera plus un autre moment. Et puis, ça va pas empêcher l'agriculture de vivre. Pareil pour les néonicotinoïdes. Pareil pour la protection des betteraves, les organophosphorés sur les betteraves. Il y a moyen de s'en passer. C'est même une nécessité. Pour la santé des gens, pour la santé des agriculteurs et pour la santé des consommateurs. Et donc il faut progresser collectivement. Donc les normes pour le coup, de ce point de vue là, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Après, on n'est pas non plus naïf, c'est-à-dire que l'application des règlements d'orientation européenne, par exemple, c'est parfois difficile. Par exemple, nous, on est un peu catastrophés par le fait que les contrôles soient assurés par des passages satellites tous les 3 jours sur nos parcelles et qu'on va demander à l'agriculteur d'aller prendre une photo pour bien confirmer qu'il a bien telle culture et pas une autre sur la zone qui a été photographiée parce que le satellite n'a pas reconnu. Enfin, on est dans des trucs délirants de ce point de vue-là. Délirants, hein, ça, on est bien d'accord. Comme est délirant les contrôles sur les élevages en plein air, les petits élevages en plein air, que l'on voudrait soumettre à des normes identiques aux élevages industriels. Alors que l'on sait que la fragilité sanitaire des animaux, elle provient notamment de ces concentrations d'animaux dans des conditions qui ne permettent pas le développement des défenses immunitaires. Donc, par exemple, très clairement, les élevages de volailles. Moi, je suis dans un coin, on fait de la volaille de Bresse. C'est la seule volaille AOP en France, partout dans le monde, finalement. Et donc, c'est une volaille qui va en plein air. pas, je crois que c'est 10 000 mètres carrés pour 500 poulets de parcours. Et on oblige les agriculteurs, les éleveurs de ces poulets à les garder en claustration. Bah, ça, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible et c'est une aberration. Voilà, parce que c'est des poulets qui aiment en plus courir et tout ça, qui ont été sélectionnés pour ça. C'est ce qu'on dénonce aussi. Après, nous, on est conscient de notre force, mais on est aussi conscient de nos limites. Nos adhérents sont vraiment très engagés, souvent sur de la vente directe, des activités de vente directe, c'est ce que je vous disais pour ma part. Donc leur disponibilité, elle est relative, même en ce moment où on est plutôt dans un temps, on va dire, calme au niveau des travaux de la ferme. Toutes les activités de transformation, de vente directe aux producteurs, elles sont inévitables. Et donc, le souci, c'est que les gens, ils peuvent pas se mobiliser sur des longues, très longues périodes. Donc là, on s'est donné l'objectif de tenir le péage le plus longtemps possible. On s'est donné jusqu'à lundi midi. On va essayer de le faire. On a donné les mots d'ordre. On a trouvé les moyens d'avoir quand même un centre de tracteurs, de véhicules pour tenir le péage. Parce que ça nous semble intéressant, notamment de faire... De relayer notre discours, nos revendications vis-à-vis des autres syndicats agricoles aussi, qui sont quand même des revendications un petit peu différentes et qui méritent d'être prises en compte. Voilà.
Nous sommes de retour, vous écoutez le Canu Info, on sort d'un reportage et on enchaîne.
Et oui, donc à la suite de cette belle mobilisation qui s'est finie un petit peu abruptement, je dirais, en tout cas le reportage, comme je le disais en introduction, le mouvement a connu un gros coup de frein après les annonces de Gabriel Attal ce jeudi. En gros, au programme, plus de moyens pour produire et donc pour l'agriculture exportatrice, en reculant sur l'utilisation des produits phytosanitaires et des OGM et en encourageant le stockage de l'eau, coucou les méga-bassines. Pour les produits phytosanitaires, le plan Ecophyto censé réduire drastiquement l'utilisation des produits, des pesticides notamment, a été suspendu jusqu'au 24 février, c'est-à-dire jusqu'au salon de l'agriculture. Donc Attal a également annoncé des mesures de défiscalisation de l'héritage professionnel, histoire de favoriser un peu plus la concentration du capital et favoriser les gros propriétaires. Rien donc sur les revenus, rien non plus sur les accords de libre-échange, sauf sur le Mercosur, mais il y a encore beaucoup d'accords qui sont remis en cause par les paysans et paysannes, notamment avec la Nouvelle-Zélande. C'est donc pesticides à gogo, stockage irraisonné de l'eau et viande de synthèse, le pari gagnant de la FNSEA. Bref, l'ultralibéralisme et l'agro-business ont encore de beaux jours devant eux pendant que les paysans continueront de crever la dalle. Résultat immédiat sur le blocage de Saint-Quentin-Fallavier samedi matin, l'évacuation du site par les keufs. On se souvient encore ému de Darmanin qui disait sur France 2 le 31 janvier, soit 3 jours avant l'évacuation, « Les agriculteurs ne sont pas des délinquants et il n'est pas question de les évacuer. » Encore lol.
Sauf ceux de la Confédération Paysanne.
Et du coup, on vous propose une petite lecture du communiqué national de la Confédération Paysanne à la suite de ces évacuations.
Deux blocages de la Confédération Paysanne au péage de Saint-Quentin-Fallavier en Isère et à la centrale d'achat Leclerc SCA Ouest à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique ont dû être levés après l'intervention des forces de l'ordre au petit matin. Nous dénonçons le choix du gouvernement de traiter différemment les mobilisations et les organisations syndicales. Les dirigeants de la FNSEA ont obtenu du gouvernement des réponses liées à leurs intérêts personnels d'agri-managers spéculateurs. Ces derniers ont ainsi permis au gouvernement de s'exonérer de répondre à la question centrale de cette mobilisation, le revenu.
Partout où elle s'est mobilisée, la Confédération Paysanne a porté la défense du revenu pour tous les paysans et paysannes, et pas seulement pour une fraction déjà nantie, qui savent au quotidien que vivent de leur métier grâce à un revenu digne est urgemment nécessaire. Sur les blocages et les actions, où nous ont rejoint beaucoup de paysans et de paysannes, souvent non syndiqués, nous avons constaté à quel point cette question du revenu était centrale pour toutes et tous. La levée forcée de nos blocages n'arrête donc rien. La preuve aujourd'hui,
Encore des actions ont lieu et vont continuer la semaine prochaine.
Le combat ne fait que commencer et le rapport de force se construit dans la durée avec tous nos collègues pour qui ce combat est fondamental. Les dynamiques sont fortes sur le terrain et ouvrent un horizon pour l'avenir de l'agriculture et des paysans et paysannes. Pour la Confédération paysanne, il n'est pas question d'abandonner la lutte légitime et indispensable du revenu paysan.
Donc ça, c'est le dernier communiqué de la Confédération paysanne qui a donc poursuivi les actions et la mobilisation ces derniers jours. À Lyon, ce lundi, la Confédération et la Fédération française des apiculteurs professionnels ont ainsi organisé une action sur la place Bellecour. Ils dénoncent donc les mesures du gouvernement qui, bah, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, met complètement en pause le plan Ecophyto, ce qui annonce un désastre écologique pour les abeilles et donc évidemment pour les apiculteurs, un désastre économique pour la production de miel. Ils soulignent également le manque de réaction de l'État face à la concurrence du miel étranger qui les met particulièrement en danger. Les apiculteurs et apicultrices sont donc occupés ce matin la place Bellecour avec leurs ruches et leurs enfumoirs. On vous tiendra au courant ici des prochaines actions et on espère bien que le mouvement a de beaux jours devant lui.
Et puis on va finir cette émission par un petit agenda, l'agenda de la semaine.
D'abord on va mettre une petite musique, non ?
Allez, on fait une pause musicale.
On vous propose d'écouter une petite adaptation de En bande organisée version paysanne.
Viens les goûter. Roi d'Espagne, légumes bio. Bien sûr, c'est du quartier.
Bien sûr.
L'oseille, on calcule. Si tu Prado, on est pro.
Ouais.
La confiance. Maraîcher, tu as trop la confiance. Les masses goûtées, quand je bêtais dans mon terreau dispense. Tu veux nous faire la guerre? Je vais t'écraser. Ça prend tes radis, ça prend tes céleri, ça prend ta teuté. Le téléphone bip. Faut tout préparer, oh. C'est marché, mémé.
Allez.
Ça m'a rassé, bébé. Wesh, alors ma race. Qui ou quoi? Grimpe dans la remorque, je fais 0 à 20 en 1h03. Tractorisé, y'a assez d'essence. On se croit, c'est sûr, tu es devenu fermier.
J'ai passé la bague à Chicky Poule, 2 ans après, je l'ai liquidé. Y'a des petits canards, un yin chat haché et des équidés. Que des phénomènes, je vais te les faire kiffer. On fout le feu nous-mêmes. À Marseille, bébé, un droit d'être dehors. Y'a des minots dans le décor. Bic et bière sur la canne bière. Chic pécor sur le vieux port.
Sentez l'odeur.
Mis à mort, c'est les fermes du sud, c'est les fermes du nord. Nique Leclerc, leur bio de mer. Nique Bayer qui chimique la terre.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique boule. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe.
C'est du rural, caillerage. Rap de tout, carotte et chourave. Et ma clique est faite de malades. Collectivement, on se marre grave. Le T et le qui s'aiment pour la révolte. On gâte le dénouement du proche effondrement. L'espoir te voir allier la cause. Et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh, camarade. Je suis dans le tracteur brouillé, pisté par les deux ânes. Et ça fait qu'on va taffer, oh, taffer, oh, camarade. Je suis dans le tracteur brouillé, pisté par les deux ânes.
Oh, à la terre de nos pays. Oh, paysans nourrit le pays. Oh,
non mais c'est ta vraie voix?
Mais non. Yao, à la terre on obéit, yao, paysan nourrit le pays, yao. J'ai les poches bitumes, si je fais des légumes pour ken le bitume, mais oui, yao. Ce qu'on apporte dans la zone, yao, c'est fort, c'est les bonnes zones, yao. Regarde, ouais, j'mangeais la forme, forme-toi, mon type, faut que tu sois farmer. Car c'est trop vrai, la ville a besoin de bergers, de retrouver ses maraîchers. Béton, t'es mauvais, quel gâchis t'y a décollé. La pinède ratatine est cognée par un vieux projet. Tu vois, c'est fou, fou, fou. On fait les malades, bientôt ça sera nous. Que tu l'inviteras, car ma clique kick tout. Et nos poules font glou glou glou. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique boule. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier.
fumier, à nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout, basta la bad bouffe chimique bouffe, basta la malbouffe, basta la malbouffe. Big up à toutes les bandes des terres qui s'organisent. Vive le rap contestataire et vive le travail de la terre.
Et vive le rap contestataire et vive le travail de la terre.
Ça aurait été dommage de se passer de cette petite chanson.
C'était donc Bande organisée en version paysanne et on passe tout de suite au traditionnel agenda.
Et oui voilà, et donc ce que je disais c'était que jeudi, si vous avez un vélo à réparer, vous pouvez aller aux heures félines de l'atelier du Chat Perché. Mercon, c'est en mixité choisie, c'est de 18h à 20h30. Et le Chat Perché, c'est au 29 rue Salomon Reynache dans le 7e. Jeudi toujours, alors il y a, en ce moment il y a pas mal de conférences gesticulées. Il y en a une à la MJC Jean Massé jeudi à 19h30 qui s'appelle Petit manuel de survie émotionnelle pour un voyage dans l'espace social. Bon, c'est un titre de conférence gesticulée quoi. C'est 38 rue Camille Roy dans le 7e. Il y en a une autre vendredi, je ne vous les dis pas toutes, mais celle de vendredi a l'air bien. Elle s'appelle Avoir la classe, oui, mais laquelle? C'est à la MJC Mon Plaisir à 19h, 25 avenue des Frères Lumière dans le 8e. Vendredi toujours, il y a une soirée de solidarité anti-répression. C'est à 19h à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff. Voilà, on pourrait manger et écouter de la musique. Samedi, il y a eu un exposé, une discussion autour du portefeuille d'identité numérique à partir de 17h30 à l'atelier des Canulars. C'est 91 rue Montesquieu dans le 7e. Et il y a aussi une soirée sur le nucléaire à l'illégalité à 19h. L'illégalité, c'est 6 rue de l'égalité. Bon, là, il y a des discussions, il y a un genre de spectacle, il y aura à manger et surtout, il y aura des DJ le soir. Et pour finir, dimanche, il y aura Ciné-Cantoche à l'annexe de l'ECG. C'est à partir de 18h pour manger des maquis et boire des tisanes. Et le film, je ne sais pas si je serais capable de le prononcer, c'est Ung Dom Chu 7. C'est un documentaire de Nicolas Vibor. Bon, je vous propose d'aller sur Rebellion pour en savoir un peu plus. Et en tout cas, c'est 27 rue Salomon Reynache.
Et on rappelle que demain, il y a une nouvelle journée de grève dans l'éducation avec un rendez-vous de manifestation à 14h, place Guichard.
Et on imagine, on n'en a pas parlé ce soir, et c'est assez rare ces derniers temps, qu'il y a toujours des mobilisations pour le peuple palestinien. On imagine que le week-end prochain, il y aura de nouveau un appel à rassemblement ou à manifestation. On vous invite à suivre les réseaux sociaux du collectif Palestine 69 qui publie tous les rendez-vous ou à regarder sur Rébellion. Point info sur lequel vous retrouvez tous les rendez-vous qu'on vient de vous donner ce soir.
Et ben voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour un canu info en mixité choisie.
Sans mexis.
À la semaine prochaine.